Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes toujours en crise. Crise financière, crise énergétique, crise de l'emploi ou encore hôpital en crise. Une crise est une perte de confiance en soi ou envers un système bien rodé qui ne doit pas s'effondrer. Et quand il y a crise, tout le monde se sent potentiellement en danger, doute et cherche à identifier le mal à l'origine de la crise. Pourtant, ce mot issu du grec « crisis » signifie initialement « décision ». C'est ce que nous fait remarquer l'auteur du livre « Santé, sortir des crises ?» Il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux, nous dit l'auteur, d'agir et surtout de prévenir les crises dans le domaine de la santé. Laurent de Gausse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous venez donc de publier ce manifeste « Santé, sortir des crises » aux éditions du Pommier en 2011. Je précise que vous avez mis en place la Haute Autorité de Santé de 2005 à 2010, que vous êtes hématologue, professeur à l'Université Paris Diderot Paris 7. Vous avez dirigé le service clinique des maladies du sang de l'Hôpital Saint-Louis, l'Institut universitaire d'hématologie et l'École doctorale de biologie et biotechnologie. Et enfin, vous êtes correspondant de l'Académie des sciences. À travers votre manifeste, Laurent de Gausse, vous souhaitez faire passer le message suivant. Puisque nous savons désormais reconnaître les premiers signes annonciateurs d'une crise dans le domaine de la santé, nous pourrions, a priori, les prévenir. Alors, à quelle crise dans le domaine de la santé faites-vous référence, Laurent de Gausse ? Est-ce qu'il s'agit des crises liées à la pharmacovigilance, dont l'affaire, malheureusement, du Mediator a illustré largement ce thème dans les médias ? S'agit-il du surdosage de médicaments administrés dans les établissements de santé ? Ou encore la gestion des épidémies comme la grippe H1N1 ou le chikungunya.
Je crois qu'on peut se servir des événements antérieurs pour mieux connaître les crises. Et comme vous l'avez dit, une crise survient brutalement sans qu'on s'y attende. Et puis, ça met un grand désordre, une sorte de chaos. Et ensuite, on en ressort avec, je dirais, moins de liberté, avec plus de règles, en fait. Mais ce que j'ai voulu montrer, surtout, c'est à partir des crises connues, à partir de ce que l'on peut voir comme ambiance autour de nous, il y a quatre grands domaines dans lesquels on pourrait avoir des moments de crise. Le premier, c'est le médicament. Ce n'est pas tant, comme vous l'avez dit, la pharmacovigilance. C'est beaucoup plus, je crois, aujourd'hui, le fait que de peur qu'il y ait un événement indésirable, grave, les compagnies pharmaceutiques ont fait en sorte qu'elles ne s'adressent plus aux grandes populations, parce que c'est là où on voit en fait des événements indésirables, graves, mais à des toutes petites populations qu'on appelle des niches, médecine personnalisée, médecine de cible. Et donc, on traite très peu de personnes. Comme ça, si un événement indésirable grave était peu fréquent, il ne se verrait pas du tout. Et de ce fait, puisqu'il ne traite que des petites populations, il y a un risque à ce qu'ils retrouvent, en fin de compte, leur argent, et donc font payer très très cher ces médicaments. Et donc il risque d'y avoir une crise entre l'industrie, en fin de compte, ces médicaments, et l'assurance maladie. On pourra en parler plus en détail, si vous voulez. Le deuxième grand élément que je voyais, c'est aussi l'hôpital. L'hôpital se trouve dans une situation très difficile aujourd'hui parce que dans tous les pays, on réduit très nettement la voilure de l'hôpital de près de 50% au profit de la médecine de proximité. Or, on demande à l'hôpital d'augmenter son activité. Alors, comment voulez-vous qu'il fasse pour augmenter l'activité en diminuant sa voilure? C'est bien difficile aujourd'hui. Et puis, troisième élément que je voyais aussi de crise, pour les citer, puis on y verra ensuite, c'était celui de l'innovation. Et l'innovation est un petit peu coincée par le principe de précaution, par la sécurité, et il faudra bien débloquer la situation. Et puis enfin, si tout ceci se met ensemble, en fait, on s'aperçoit que le patient se sent gêné. Il n'a plus de médicaments, l'hôpital ne marche plus, il n'y a pas d'innovation. Et surtout, ce qui l'intéresse, lui, le patient, puisque fait qu'on le futur, ce sera autour du patient, c'est son parcours de soins. Or, le parcours de soins, on s'aperçoit que c'est un parcours du combattant. Et je crois que là, il y a une vraie réforme à faire, c'est changer complètement notre système de santé autour du patient, autour de son parcours lorsqu'il a besoin de soins. Donc vous voyez que ces quatre éléments, le médicament, l'hôpital, l'innovation et le parcours de soins, me semblaient être les ferments, les germes de futures crises.
Alors, vous parlez d'innovation, démarrons peut-être sur ce point. Après une crise, d'ailleurs vous l'écrivez dans votre manifeste, on crée souvent une agence, une solution prise le plus souvent par les décideurs gouvernementaux, par crainte d'une réaction sociale ou politique. Alors pour exemple, l'Agence pour la sécurité des produits de santé, l'Agence pour la sécurité alimentaire, l'Agence pour la veille sanitaire, pour la politique médicale, pour la sécurité de l'environnement, etc. etc. Est-ce que justement ces agences freinent l'innovation, selon vous, Laurent de Gauss ?
Alors, je ne dirais pas que, d'abord, cette foison d'agences, enfin, je crois qu'il faudra un jour ou l'autre regrouper pour mieux comprendre les trois grands domaines dans la santé qui sont le premier, la sécurité, le deuxième, la pratique, et le troisième, la prévention. Mais il faudra qu'on arrive à mieux cerner, en fait, compte trois grands types d'actions. Mais là où je voudrais en venir, c'est que souvent, lorsque l'on fait de l'évaluation, on regarde le bénéfice et le risque. Et souvent, c'est pour la personne. Quel est son bénéfice par rapport au risque ? C'est ce que fait l'agence du médicament pour mettre un médicament sur le marché. Or, quand on regarde l'innovation, c'est un bénéfice potentiel pour la population et on fait prendre un risque immédiat à un individu. Et donc là, on ne connaît pas bien comment gérer cela. On ne sait pas très bien gérer cela parce que c'est un bénéfice potentiel collectif versus un bénéfice individuel, un risque individuel immédiat. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner sécurité, mais il faut raisonner plutôt éthique. Est-ce que la population est prête à faire courir des risques à certaines personnes pour des grandes innovations qui apporteront dans le futur un grand bienfait ? Je vais prendre des exemples. La greffe d'organes au début était extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, c'est commun. La transfusion, remontons plus loin. La transfusion au début entraînait beaucoup d'ennuis. Il a fallu trouver les groupes ABO, puis le groupe Rhesus. Et maintenant, c'est vraiment l'acte le plus sûr qui soit. Donc vous voyez que dès qu'on se lance dans une innovation, il y a toujours des risques immédiats pour les premiers pionniers qui reçoivent, mais ils ont aussi un bénéfice, mais pour les premiers pionniers, mais en vue d'un grand bénéfice collectif potentiel. Et la collectivité doit pouvoir dire oui, on peut se lancer ou non dans cette aventure. Et aujourd'hui, on est donc au début de la thérapie génique, au début de la thérapie cellulaire, au début du changement de comportement par stimulation du cerveau. Cela est-il permis ? Cela est-il interdit ? On est plutôt, je crois, dans l'éthique que dans la sécurité. Or, ce sont souvent des agences de sécurité qui prennent les décisions finales.
Alors j'imagine qu'en parlant justement de cette question d'éthique, vous faites aussi référence à la loi actuelle sur la bioéthique qui interdit la recherche sur les cellules souches embryonnaires, mais qui autorise des recherches dans le cadre de dérogations. Alors justement, est-ce qu'à terme, on va fonctionner avec à chaque fois des lois qui interdisent et parallèlement des dérogations ?
Alors là, vous voyez une vraie réflexion à mener entre faut-il permettre avec des règles et des limites et des commissions ou faut-il interdire avec des dérogations ? Et c'est un choix de société. Je crois que d'ailleurs, interdire avec des dérogations permet de mieux suivre l'évolution de cette innovation. Mais il faut bien qu'il y ait des dérogations. Mais on suit vraiment ce qui se passe. Et s'il y arrive un accident, on pourra toujours dire à la population, vous voyez bien, ça a été interdit, mais en fait, la dérogation était un peu trop loin. On pourra revenir facilement à une limite. Alors que lorsque l'on permet, avec des commissions, et que tout d'un coup, il y a un scandale, c'est ce qui arrive pour Mediator, avec la pharmacovigilance. Alors là, tout éclate. Et on est obligé de tout recomposer, de tout recommencer. Donc, il y a une vraie discussion, et au niveau de la loi, on le voit bien, entre ceux qui préféraient interdire avec des dérogations qui permettent de suivre vraiment l'évolution de l'innovation, et ceux qui disent au contraire, on permet avec des règles, mais à ce moment-là, s'il arrive un accident, on recule fortement parce que la population ne comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi a-t-on permis ? Pourquoi a-t-on mis ces règles qui ne marchent pas ? Etc. Donc vous voyez que je suis entre deux eaux, je ne peux pas dire que je préférerais l'un ou l'autre.
Pourtant, donc, vous nous avez parlé de médecine collective et parallèlement, vous êtes, en vous entendant, pour l'évolution, une innovation individualisée, en quelque sorte, avec ces dérogations.
Oui, je suis pour que l'on puisse faire des sauts technologiques. Je suis pour que l'on puisse avoir quelque chose de tout à fait nouveau, tout à fait innovant, inconnu auparavant. Et c'est là où il faut se dire, est-ce qu'il faut bien maîtriser, en fin de compte, ce qui se passe ? C'est pareil quand on part dans l'espace, c'est pareil partout. Donc, il faut maîtriser. Et je crois qu'il faut, là, vraiment suivre de très très près ce qui se passe. Et que si on permet avec des règles, c'est encore des commissions et autres, on risque d'ouvrir des vannes plus facilement, y avoir des ennuis et des accidents. C'est pour ça que vous avez raison de dire que c'est très individuel au début, puis ça deviendra collectif plus tard, mais c'est très individuel au début.
Alors, venons-en à l'hôpital. Vous parlez dans votre manifeste de fausses bonnes idées. Alors, j'aimerais qu'on en parle de ces fausses bonnes idées. Par exemple, la déclaration obligatoire de tous les événements indésirables qui sont survenus, donc événements indésirables graves qui sont survenus au sein d'un établissement de santé.
Alors là, oui. Vous savez, on parle de sécurité, on a a priori des bonnes idées et on s'aperçoit que ces bonnes idées, en fin de compte, elles ne sont pas des bonnes idées. Vous avez pris l'exemple de la déclaration obligatoire. La Grande-Bretagne a choisi cette voie de faire en sorte que tous les événements indésirables soient déclarés. En très peu de temps, leurs machines ont été dépassées, ils ont eu des millions, puis des millions et des millions de déclarations. Et en fait, ils ont accumulé ces déclarations. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Rien du tout. Or, ce qu'on demande, c'est plutôt de savoir la cause pour qu'on la répare et que ça ne recommence pas. Et non pas d'enregistrer. À tel point qu'ils ont arrêté cette agence, et l'été dernier, ils ont fermé l'agence de la sécurité du soin, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de tout cela. Il est préférable de chercher la cause que d'accumuler, en fin de compte, les déclarations. Le deuxième élément, on pense toujours que c'est national, il faut déclarer avec une grosse machine nationale. En fait, les causes, elles sont locales. C'est toujours un circuit dans un établissement qui dysfonctionne et non pas quelque chose qui est national. Et donc, c'est plutôt au niveau local qu'on doit déclarer et travailler dessus. On pense aussi, tiens, c'est le dernier maillon, c'est l'infirmière qui malheureusement, ou le médecin qui malheureusement a injecté quelque chose et il s'est passé quelque chose de très grave. En fait, quand on s'aperçoit que s'il l'a injecté, c'est qu'en amont, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Pourquoi le produit était là? Pourquoi c'était mal éclairé? Pourquoi est-ce que la personne était fatiguée? Donc il y a plein d'éléments en amont du système qui dysfonctionne. Et donc, ce n'est pas le dernier maillon qui compte. Et puis, aussi un élément, c'est que quand on veut rechercher, en fait, compte une cause, on mélange toujours la recherche de la culpabilité. Qui est responsable? Qui est coupable? Je veux un coupable. On le voit encore hier, ces jours-ci, avec les tribunaux qui ont donc dit qu'il n'y avait pas de coupable au moment de tous ces accidents malheureux de l'hormone de croissance. En fait, on veut toujours le coupable. Ce qui compte le plus, c'est de chercher la cause et non pas la culpabilité. Si on retrouve les causes, on peut réparer ce qui se passe. Et donc, entre rechercher des causes ou rechercher des coupables, ce sont deux voies différentes. Parce que si on dit qu'on cherche en même temps des coupables, tout le monde se tait, tout le monde se défausse, tout le monde dit que c'est l'autre, c'est pas moi. Et donc, on ne retrouvera pas la cause. Et l'aviation civile l'a bien compris. D'ailleurs, ils font ce travail tout à fait caché de chercher toutes les causes. Et on ne sait jamais ce qui s'est passé dans un avion ou monter dans un avion. Même l'administration ne sait pas ce qui s'est passé. Les aviateurs, entre eux, discutent et cherchent les causes pour que ça ne recommence pas. Donc, il faut séparer la recherche de causes de la recherche de culpabilité. Et le problème, c'est que l'indemnisation, elle est faite sur la base de la culpabilité. Et on cherche toujours un coupable pour pouvoir payer, en fait, l'indemnisation. On devrait indemniser la victime, quel que soit l'accident, si c'est une erreur, une faute ou autre chose. Ensuite, il y a deux voies. Une voie pour chercher qui serait coupable si c'était une faute. Ça, c'est vrai, c'est la justice qui le fait. Et puis une voie pour rechercher les causes, mais qui serait totalement, en fin de compte, en quête de la cause et non pas de coupable.
Vous parlez donc de rechercher une cause.
Ou des causes.
Si on se place dans le cas d'un exemple concret, une série d'incidents dans un établissement de santé, en France, on va suspendre le service en question, jetant peut-être le discrédit sur le personnel de santé, alors que dans d'autres pays, comme en Hollande par exemple, on va faire une concertation pour essayer de trouver l'origine des dysfonctionnements.
Vous avez raison, vous parlez du problème de la chirurgie cardiaque. Dans tous les pays, ça a commencé d'ailleurs en Grande-Bretagne, à Bristol, il y a eu aussi un phénomène important à Nijmegen, donc en Hollande, ça existe dans tous les pays. On a deux attitudes, ou bien l'attitude de jeter le discrédit et dire qu'ils sont coupables, et puis on s'arrête là, ou au contraire de dire mettons-nous autour de la table et comprenons pourquoi il y a de telles différences entre ce centre et un autre centre. Et pourquoi y a-t-il des différences de mortalité, d'infection ou autre chose? Et réparons cela. Et c'est là deux attitudes. Et je crois que vous avez raison. Si on jette du discrédit, on s'arrête là et c'est fini. Et il ne se passe plus rien. Alors que si on essaie de réfléchir, on avance et on a de plus en plus de sécurité. C'est comme ça que l'aviation civile est très sûre et que la santé n'est pas très sûre.
Autre fausse bonne idée que vous listez, la mise en place de procédures et checklists pour tous les gestes, tout acte, toute communication. On va vers une organisation administrative de...
Alors, oui, ça c'est... En fait, compte, on a voulu copier ce qui se passe justement dans l'aviation ou ailleurs. Mais il faut savoir qu'on n'a pas affaire dans la santé à une machine bien huilée, mais à un homme qui est très variable. Et donc, on sait bien qu'il faut des moments de checklist, rentrer en salle d'opération, mettre un cathéter ou autre. Mais il y a des moments où, au contraire, il vaut mieux anticiper, être, en fait, compte, en éveil de l'inattendu pour essayer de prévenir ce qui va arriver. Et donc, en médecine, on a un mélange entre ce côté prescriptif de checklist et ce côté autonomie, anticipation, que les Anglais appellent résilience, c'est-à-dire être en élasticité face, en fait, compte à un environnement variable.
Alors, vous dites prévenir ce qui va arriver, peut-être tournons-nous vers le public, vers la population. Vous parlez à un moment donné donc d'une crise qui n'a pas eu lieu, qui est la grippe H1N1, et vous dites que justement la prévention a été très difficile à faire admettre. Alors, comment parle-t-on, s'adresse-t-on à ce public qui n'est pas forcément prêt à accepter une prévention ?
Alors, c'est plutôt le vaccin que la prévention. Le vaccin a toujours été considéré comme étant quelque chose qui pourrait être dangereux. Et donc, on cherche toujours ce qui est dangereux dans un bienfait possible. Et là, on a eu un petit peu des doutes. On a parlé d'une maladie neurologique comme le Guillain-Barré. Puis ensuite, on a parlé d'adjuvant pour certains et pas d'adjuvant pour d'autres. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose de dangereux derrière cela. Et on n'aime pas du tout injecter ou se faire injecter quelque chose qui pourrait être dangereux. Et c'est là, je crois, il faut être assez clair. Les vaccins ne sont pas dangereux. Vous savez que la Grande-Bretagne a cru que le vaccin contre la rougeole donnait l'autisme. Il a fallu attendre des années et des années pour démontrer que c'était faux. Mais on croit toujours qu'il y a quelque chose de caché et dangereux dans un bienfait. Alors, peut-être est-ce notre culture latine qui fait ça, mais peut-être notre culture judéo-chrétienne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est profond. Donc, dans cette crise, on a cru qu'il y avait quelque chose de caché. Le deuxième élément qui peut être dangereux, c'est que, comme ça n'a pas eu lieu, on se dit, mais pourquoi toute cette grande aventure, pourquoi tout ce qui a été mis en place aussi compliqué, était aussi formel, pour rien du tout? Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une méfiance de la population face à la prévention par le vaccin. Heureusement qu'il y a eu, en fait, toute cette machinerie qui a permis de pouvoir arrêter cette épidémie, qui n'était heureusement pas dangereuse, mais si jamais il y en avait une de dangereuse, ça nous aurait été extrêmement utile.
Dans votre manifeste « Santé de point sortir des crises », point d'interrogation, vous parlez des quatre crises potentielles qui méritent que l'on les comprenne pour mieux les prévenir. Crise financière, crise sociale, crise éthique et légale et crise institutionnelle. Et vous dites qu'elles peuvent justement se lier entre elles et provoquer des situations dangereuses dont le système de santé ne pourrait ne pas se remettre. Alors j'imagine que ça fait référence notamment à ce que vous nous avez dit en préambule sur le lien entre crise financière et assurance maladie.
Tout à fait. Si on regarde, si les médicaments sont maintenant extrêmement chers parce que les industriels se sont tournés vers des médicaments de niche, des médicaments orphelins, des médicaments de médecine personnalisée. De ce fait-là, on a des médicaments qui sont à 500 000 euros par an par personne.
Dans certains cas.
Dans certains cas, bien sûr. Mais tous les industriels se sont tournés vers ce genre de médecine très personnalisée. Et donc de traiter très peu de personnes. Et donc, puisqu'ils ont un chiffre d'affaires et qu'ils ont des actionnaires, il faut bien qu'ils aient un retour sur investissement important. Donc, ils font payer très cher ces médicaments. Ces prix n'ont rien à voir ni avec la découverte, ni avec la production, ni avec quoi que ce soit de commercialisation. C'est au contraire beaucoup plus simple que le reste. Mais il faut bien qu'ils aient un retour pour pouvoir faire vivre leur firme. Et comme c'est basé sur très peu de personnes, très peu de patients, il faut bien qu'il y ait un retour fort avec des prix très élevés de médicaments. L'assurance maladie dit, moi, je ne peux plus payer à ces prix-là, 500 000 euros par an par personne, ce n'est plus possible, je ne paye plus. Et on comprend bien, dans tous les pays, il y a maintenant une réaction violente des assurances solidaires. À ce moment-là, les deux se disent, mais ma foi, il y a peut-être une source d'argent, c'est l'hôpital. Donc on peut tomber sur l'hôpital en disant, mais on va réduire très nettement l'hôpital. C'est comme ça que l'hôpital, d'ailleurs, se réduit au profit, parce qu'il y a beaucoup de technologies nouvelles qui permettent de réduire son activité, en tout cas, la durée de passage dans l'hôpital, etc. Donc l'hôpital va se réduire, mais l'hôpital, en fait, compte, il va vivre très très mal socialement. En fait, compte, cette réduction assez brutale. En 5-10 ans, il faut qu'il réduise de 50% sa capacité en lit et autres. Vous voyez socialement ce que ça peut représenter pour tout le personnel qui est employé. Et puis à la suite de quoi, on dit, mais l'hôpital, il peut survivre grâce à l'innovation. Mais si l'innovation est bloquée par la sécurité, par la précaution, par tout ce qu'on a dit au début, à ce moment-là, l'hôpital n'a plus de source de vie, puisqu'en fait, compte, sa vie, c'était l'innovation. Et il pouvait dire, moi, je peux vivre parce que je vous apporte du nouveau. Donc si on le bloque ça, il va très très mal vivre. Et puis à la fin, le patient, il vous dira, mais moi, tout ça, ce que je veux, c'est avoir un parcours entre la ville, l'hôpital et la suite de l'hôpital. Vous parlez de l'hôpital seulement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le tout. Et en fait, compte, cette vie de parcours de soins, pour l'instant, elle est segmentée. Je vais vous dire, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe de l'hôpital, c'est l'assurance maladie qui s'occupe du libéral, donc de la ville, et c'est une autre caisse, la CNSA, qui s'occupe de tout ce qui est autonomie et invalidité. Et bon, à ce moment-là, il y a trois têtes. Et donc, en fait, il est très difficile de pouvoir faire un parcours avec trois têtes différentes qui ne se parlent pas entre elles. Donc, il y a là, vous voyez, une difficulté. Et donc, je sens que ce système, si on ne met pas de la souplesse et si on ne revient pas à l'essentiel, qui est de dire, construisons notre système de santé autour du patient. On l'a construit au début, en fait, autour des médecins, parce que c'est eux qui avaient le savoir. Ensuite, on l'a construit autour de l'économie et de la société et de la santé publique. On comprend bien. Mais aujourd'hui, il faut construire de nouveau notre système de santé autour du patient et revoir complètement ce dont il a besoin. Et peut-être qu'il n'a pas besoin de trop de médicaments extrêmement onéreux, peut-être qu'il a besoin d'hôpital, peut-être qu'il soit limité avec une grande proximité, peut-être que le parcours de soins est ce qu'il demande, mais il faut s'intéresser à lui.
Mais justement, ces propos que vous abordez, est-ce le rôle justement de la haute autorité de santé que de se pencher sur le devenir du système de santé français ?
Je pense que la Haute Autorité de Santé a des missions, elles sont définies par la loi, on lui demande certaines réflexions globales, mais surtout des missions assez en fait, qu'on précise sur l'évaluation des médicaments, sur l'évaluation des hôpitaux, sur les recommandations de bonnes pratiques et autres. Mais c'est pour ça que je me suis permis d'écrire ce livre lorsque je me suis retiré de la Haute Autorité pour pouvoir apporter une réflexion plus globale et plus générale sur notre système de santé.
Donc la solution pour prévenir ces crises en matière de santé, ce serait justement réformer ce parcours de soins.
En tout cas, réformer notre système de santé autour de ce que demande le patient. Et en premier, il demande ce parcours de soins. Il demande aussi à ce qu'on lui explique, à ce qu'on communique, à ce qu'on l'informe, à ce qu'il prenne part à la décision. Mais je crois que dans le système, pour le système, ce qu'il demande, c'est que c'est autour de son parcours de soins qu'on devrait réformer la santé.
Eh bien, merci Laurent Degaux. Je rappelle le titre de votre manifeste, « Santé, sortir des crises », publié aux éditions du Pommier en 2011. Merci à vous, Laurent Degaux, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.